Vous écoutez
RMC.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit en direct et bien sûr comme tous les soirs de la semaine, 7 jours sur 7, l'After reste avec vous pendant toute cette période sans foot bien sûr, et ce uniquement sur RMC à la radio, l'After, l'émission qui dit tout, ce que le monde du football pense tout bas. Attention, ils sont là ce soir avec vous, Lionel Charbonnier. Lionel, bonsoir.
Salut mon Gilbert, salut à tous.
Pierre Ducrot est là, salut Pierre.
Bonsoir monsieur.
Salut Pierre.
Et coach Courbis avec nous, exceptionnellement un dimanche soir, salut Roland.
Salut les amis, ben oui, je suis titulaire à la place de Daniel. D'ailleurs, on lui souhaite un superbe anniversaire, même si ça se passe avec ce confinement. Mais écoute, c'est un anniversaire quand même.
Tout à fait, il sera de retour demain, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, comme chez lui à la maison, ben, ils étaient beaucoup, ils se sont dit, on va faire la fête, tu vois. Voilà, donc... de façon confinée et bien sûr dans les règles. Il nous racontera ça demain.
Pour passer une bonne soirée, ils écoutent l'After. Donc
bah, évidemment. Je ne donnerai pas son âge, hein, il vous le donnera demain. L'événement ce soir dans l'After, les gars, c'est le mercato. Le mercato des directeurs sportifs qui s'emballe. Mais pourquoi y a-t-il désormais un mercato des directeurs sportifs? Eh ben, on en débattra ensemble au 32-16 tout à l'heure dans une petite demi-heure. Dans quelques instants, l'actu du jour, pas mal de choses aujourd'hui, même pour un dimanche, sans match. Et puis à 23h, le 11 type de l'histoire des Bleus. Alors le journal L'Équipe s'est amusé à consulter ses lecteurs pour le composer, ce 11 des Bleus. Et comme par hasard, bon, on n'est pas d'accord. Donc on vous attend pour débattre. Est-ce que vous êtes plutôt Lizarazu ou Amoros? Est-ce que vous êtes plutôt Laurent Blanc ou Marius Trezor? Bref, je ne vais pas faire tous les postes. On se garde ça pour 23h tout à l'heure. Est-ce que vous êtes plutôt Lionel Charbonnier que Bernard Lama, par exemple, ou que Jean-Paul Bertrand de Manne? N'hésitez pas, appelez-nous. 23h tout à l'heure. Et puis à 23h30, on profitera de la présence de coach Courbis pour qu'il nous raconte les folles années du Sporting Club de Toulon. Eh oui, entre 82 et 90, la belle époque.
Ça sera juste 32 minutes.
Ah oui, maillot jaune, époque masse d'auge. Oui, avec, il paraît que c'était une race casse sur le. Parce que je me suis renseigné quand même, Roland. Sur
non, pas le, c'était, ça l'est toujours.
C'est le blason du club.
C'est l'emblème, et qui s'y frotte, s'y pique. Voilà. Donc ça, c'est le slogan.
Pourquoi une race casse? Je ne sais pas. Pourquoi pas un mérou?
Une race casse, c'est sympa. C'est le poisson le plus important de la bouillabaisse, la race casse.
Voilà un argument valable. Merci Roland. Ce sera tout à l'heure. Hein, donc c'est une demande qui est arrivée sur l'hashtag Mon After. Hein. On a dit, ouais, Roland, il va nous raconter Toulon et tout. C'était top.
Avec des hauts et des bas.
Avec des hauts et des bas, exactement. Ce sera tout à l'heure. Donc le 32-16 est ouvert pour toutes les infos du jour, pour débattre avec nous de tous les sujets. Le hashtag RMC Live sur Twitter, Direct Studio sur les applis RMC et RMC Sport. Appli qu'il faut télécharger. Déjà, un, c'est gratuit. Deux, vous avez tous les podcasts, notamment ceux de l'After, le podcast J'aime courir aussi, qui est magnifique. Et en plus, vous pouvez envoyer vos messages en appuyant sur Direct Studio en haut à droite. Voilà. Il n'y a pas encore de podcast sur les recettes magiques de la famille Charbonnier pour les dîners et tout ça, mais ça peut venir, dans quelques semaines peut-être. Alors, l'actu du jour, on va démarrer avec une interview de Gérard Lopez, l'interview qu'il a donnée à l'AFP, qui est intéressante parce que bon, pas mal de clubs s'inquiètent évidemment concernant le futur mercato. Et lui, il dit, Lopez, vous allez dire ce que vous en pensez, il dit le prix des meilleurs joueurs ne va pas baisser. Il dit les meilleurs, ça restera les meilleurs, ce sera toujours, voilà. En gros, il parle de ceux au-dessus de 60-70 millions d'euros. Il dit là, ça bougera pas, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup des joueurs dans cette catégorie-là. Il dit, en revanche, ce qui va changer, c'est typiquement le joueur de 26-28 ans qui est très bon, mais qui n'est pas un crack non plus. Et là, il y en aura beaucoup sur le marché. Donc, ceux-là, il y aura 30-40 profils, par exemple, de dispo. Donc, eux, leur prix va baisser parce que l'offre va être importante, mais la demande va baisser. Donc là, pour cette catégorie de joueurs, il dit que ça va baisser. Vous êtes d'accord jusque-là, Pierre, Roland, Lionel?
Ouais, moi ça me paraît peut-être logique. Ouais, après on va
j'écoute Pierre.
J'attends. Ouais, non, moi j'attends quand même de voir comment ça va se passer parce qu'on a on peut l'imaginer comme ça. Moi j'attends de voir le réel pouvoir économique des clubs et notamment donc si les saisons finissent, si les droits télé tombent, etc. Parce qu'il y a aussi des clubs là-dedans qui vont
avant le mercato en fait pour pouvoir être sûr.
Et puis moi j'attends de voir les clubs qui seront réellement en difficulté économique, qui devront réellement faire attention et ceux qui vont se servir du contexte pour peut-être essayer de coller à un marché un peu inférieur que ce qui se fait en ce moment. Bon, voilà, j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer, la suite des événements pour tirer les conclusions et savoir exactement quels sont les clubs qui auront été impactés. Voilà, on imagine bien que c'est pas la même chose si le championnat finit ou ne finit pas.
Le riche restera le riche et le malin restera le malin.
Aussi, ouais. Exactement.
Mais le moyen
et des fois, les riches sont malins.
Ouais, c'est souvent. C'est encore mieux.
Mais je suis pas certain, moi, Gilbert, que ça bouge beaucoup, et notamment pour les meilleurs de ces 28-30 ans qui sont dans cette catégorie. En tout cas, je parle pour la France, étant donné qu'on est dans un championnat de post-formation où il y a beaucoup de trading, tout ça. Tu te trouves quand même dans l'obligation d'encadrer pas mal de jeunes et bien les encadrer. Ce sont ces joueurs-là qui sont déterminants. Donc, je suis pas certain. Ils sont, si tu veux, c'est les meilleurs de cette tranche-là. Je pense que leur prix ne va pas baisser, moi. Voilà, ça n'engage que moi.
Ouais, c'est vrai. Bon, après on voit l'exemple.
Tu peux faire l'effort sur ces joueurs-là, je pense, Roland, non?
Ouais, mais on voit l'exemple du côté de Lille, qui dans un premier temps, ils ont fait une connerie de pas prendre par ligne un joueur expérimenté. Là, avec Fonté, André et Rémy, donc c'est pas tout à fait pareil. Et cette équipe, je la trouve mieux équilibrée, ce groupe de joueurs. Après, ce qui va se passer sur le plan économique, sincèrement, le pronostic là, de dire que la fourchette de ceux qui ont 26, 28 ans va pas bon.
Ouais, c'est compliqué. Ça va être pour moi du cas par cas.
Sincèrement, je suis largué là.
Ouais. Effectivement. Alors, il dit aussi Lopez, bon, par contre, je vois pas un méga transfert à 130 ou 150 millions cet été, dit-il. Bon. Après, il parle de Lille.
Alors, en France, il parle.
Non, de niveau européen. Hein.
Ah ouais? Bon, moi, ouais. J'en suis pas si sûr que lui. Pourquoi il n'y aurait pas un gros transfert? Pourquoi à un moment donné un club espagnol ou anglais, si jamais les championnats finissent,
c'est que il paraît que le Real a beaucoup d'argent finalement.
Et pourquoi le Paris Saint-Germain, s'il n'y a pas le problème du fair play financier, on va les empêcher de récupérer un joueur à 100 millions d'euros?
Ah, écoute, à suivre. Il parle aussi de Lille, Lopez, et il dit le LOSC a reçu 3 offres fermes sur les 2 dernières semaines, dont 2 venues d'Angleterre. Donc on peut penser qu'il peut s'agir de Zimen.
Oui.
Hein, qui semble quand même être le mec avec la plus grosse valeur aujourd'hui. Il dit nous, on n'aura que 3 ou 4 départs, dit-il.
Donc, c'est ce qu'on a dit il y a 2 jours.
Voilà, et il dit, on a réalisé un très bon dernier mercato d'été, dit Lopez, une année record en termes de marketing et de billetterie, donc on n'est pas dépendant du trading. Ce qui est quand même assez étonnant comme déclat, parce que, un, il va lui manquer un tiers de la saison, là, notamment en billetterie et marketing, plus les droits de télé éventuellement, et puis le trading, on pensait quand même que c'était le modèle global de Lille, donc là, il revient un peu dessus quand même.
Non, mais attends, j'ai pas très bien compris, ou c'est toi qui n'as pas très bien compris, il est en train de te dire qu'en ayant réussi le trading, la première saison, elle a été ratée, ils ont même failli descendre. La deuxième saison, c'est la Champions League, avec donc les achats et les ventes. Eh bien, les achats et les ventes de la deuxième saison, le classement de la deuxième saison, ça a tellement bien marché qu'ils peuvent se permettre aujourd'hui de ne pas être inquiets, comme le sont certains clubs.
Bon, très bien, moi je lui fais confiance, hein, mais vu que tout le monde pleure tous les jours à la catastrophe économique, voilà, je m'interroge quand même.
Je suis en train de ressortir l'interview.
Et puis attends, excuse-moi, mais un commerçant, sans lui manquer de respect, tu penses qu'un commerçant qui a besoin de vendre ses joueurs, tu penses qu'il va nous dire qu'il est dans la merde et qu'il va falloir qu'il vende à tout prix 2-3 joueurs pour se retrouver dans la situation de l'Olympique de Marseille que depuis des mois et des mois et des mois on est au courant qu'ils vont être dans la merde. Mais celui qui a envie d'acheter, tu crois qu'il va te faire une grosse proposition?
En effet.
Donc, il faut mieux dire que tout va bien.
C'est vrai, t'as raison. Donc peut-être que c'est qu'effectivement que de l'effet d'annonce.
Envisageons-le quand même, peut-être.
Après, dans les 3 départs, c'est peut-être pour se prémunir, parce qu'il a annoncé, je sais pas si c'est lui, mais il a été annoncé qu'il ferait tout pour garder Osimhen et qu'il partirait pas cette année. Peut-être que les 2-3...
Ça, c'est pareil, ça dépend peut-être du prix. Hein.
Bah voilà, si c'est du 80, on a annoncé, j'ai entendu du 80 millions d'euros, est-ce qu'il va être capable de refuser cette offre?
À 80 millions d'euros, ça se refuse pas, non?
Il disait que à la base, c'est ce qu'il disait. Il disait, même 80, on les vend pas. Mais nous, on en doutait. Je crois que c'était avec Daniel vendredi. On en parlait. On disait, s'il a 80, il l'a acheté combien? 15?
Il l'a acheté. Il l'a acheté en Belgique. Je vais te retrouver le prix.
Moins de 15, je crois. Et donc, si on propose 80, je pense qu'il partira quand même. C'est peut-être, je sais pas. Après, reste à savoir. Mais moi, je pense que s'il a l'offre, il va partir.
Ouais, moi aussi.
Ouais, c'est juste que tu veux pas dire tout de suite qu'il partirait. Effectivement,
exactement. Et puis, parce que t'as ton championnat à finir déjà.
Ouais. Et puis alors, c'est le genre d'interview. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure, Gilbert. Mais je ressortais justement l'interview pour relire un petit peu. Et quand dans la même phrase, effectivement, t'arrives à dire que le prix des meilleurs joueurs ne va pas baisser, qu'au-dessus de 70-80 millions, les prix ne bougeront pas. Il y aura pas parce qu'il y a pas beaucoup de joueurs qui en font partie. Mais qu'en même temps, tu penses qu'il n'y aura pas de transfert au-dessus de 130-150. Mais qu'en même temps, t'es pas à l'abri d'une surprise. Il y en aura peut-être un. Voilà, t'as tout dit, rien dit, et ça sert à rien. Quoi, voilà. Et c'est dans l'interview. Hein.
Et surtout, vous dites
12 millions aux Osimhen, et il a été acheté en 12, Belgique.
C'est pour ça. Quand tu fais du trading comme ça, 80, tu ne les refuses pas.
Bon, voilà pour l'Opal. On va dire qu'il est plutôt positif pour le LOSC. Voilà, il y a plutôt des bonnes nouvelles pour les supporters lillois, en l'occurrence. Alors, autre info.
Donc, qui ne s'inquiète pas, dès qu'il y a un super joueur, il part.
Autre déclaration, plutôt celle de Valdemar Quita. Alors Valdemar Quita, vous savez que c'est un fervent partisan de la reprise rapide. Hein. Il a même proposé de faire des camps fermés pour les joueurs, en gros une sorte de mise au vert d'un mois avec tests réguliers et tout. Et là, il dit alors pourquoi est-ce qu'on obligerait un ouvrier à aller travailler? Il y a les usines qui réouvrent. Et pourquoi pas un footballeur? Alors, dit Quita.
On peut quand même le suivre dans une certaine logique. Parce qu'on parle de football comme un sport. Il faut penser football comme un métier. Et justement, le métier, c'est de prendre les précautions.
Après, bon.
c'est d'être prudent, mais après, ne pas aller travailler si on te dit d'aller travailler, je sais pas qu'est-ce qui se passera.
On peut lui répondre, par exemple, qu'il est dans les usines.
Le problème avec ça, c'est toujours les raccourcis, messieurs. C'est une phrase où il y a tellement de choses derrière, pour le oui ou pour le non, mais il y a tellement de choses derrière à voir avant de dire je suis d'accord avec lui ou je suis pas d'accord avec lui. C'est le genre de phrase où honnêtement, moi, en 30 secondes comme ça, je peux pas dire si je suis d'accord avec lui ou pas. Si tout est réuni, si les conditions sont réunies, si ça porte préjudice à personne, bien sûr qu'il faut y aller et bien sûr que tout le monde a envie de toute manière de rejouer au foot, de retravailler et de retourner voir ses parents, ses grands-parents, etc. Après, s'il y a des conditions qui ne sont pas réunies, désolé, je suis pas d'accord avec lui, moi.
Mais à partir de là, les footballeurs sont pas plus avantagés ni moins que ceux qui vont à l'usine, quoi.
Exactement. C'est comme de renvoyer les gosses à l'école si tout n'est pas réuni pour ça, ou c'est comme de renvoyer des gens travailler sur leur travail beaucoup plus qu'aujourd'hui si tout n'est pas réuni pour ça.
Il y a une usine Michelin qui a réouvert à ces dernières heures là, avec des conditions drastiques de sécurité quand même, donc avec distanciation sociale et tout. Au foot, c'est plus compliqué, la distanciation sociale, forcément.
Ça va poser
même
problème.
Même si Roland nous parle souvent de distance de marquage, tu vois, pas sûr qu'il y ait une distanciation sociale de marquage.
Non, c'est vrai. Peut-être que ceux qui savent pas marquer, tu sais pas bien marquer, qui se font déjà de la zone, tu sais, Roland, Pierrot, les mecs qui disent, mais là on était en zone, on savait pas, là ils vont dire non, je me suis pas mis trop près, coach, parce qu'on sait jamais. tout le match, pas de risque.
Et en rugby, la mêlée.
La mêlée avec des masques, ça va être compliqué. Bon. Oui. Alors, une proposition qui va plaire à coach, peut-être. Ah. Elle vient de Claudio Ranieri, donc aujourd'hui entraîneur de la Sampdoria. Et lui, il dit, écoutez, si on veut se jouer tous les trois jours, en faisant une reprise physique avant les matchs courtes, ce sera simple. Moi, je propose, pour la fin du championnat, qu'on passe à 5 remplacements par match.
C'est pas une mauvaise idée. Après sur les idées comme ça qui sont des idées pour permettre une gestion meilleure de l'effectif et pouvoir tourner notamment à certains postes. Oui, c'est vrai que, et après pourquoi pas aussi mettre les mi-temps à 35 minutes plutôt que 45. Oui,
on peut tout changer, tu fais 3 fois 30.
Et peut-être aussi que dans ces 5 changements, allons jusqu'au bout. On peut aussi faire un autre changement quand un joueur est sorti, il peut re-rentrer. Pourquoi pas?
Sauf que les gros effectifs, ils ne sont pas d'accord.
Ceux qui ont des gros effectifs, ils ne sont pas d'accord. Vas-y, pour raccourcir tout, on fait but en or sur tous les matchs.
Non mais bon, moi je suis totalement contre un changement de règle. Voilà. Après la proposition vaut ce qu'elle vaut. Bon. Après il peut aussi faire jouer des jeunes. Hein. Je sais pas. Tous les clubs aujourd'hui, t'as quand même. Est-ce que la solution, c'est peut-être pas plus cas,
il faut
plus de monde sur les feuilles de match.
Non mais bon. il faut prendre l'habitude maintenant de se dire bon allez, on fait des débats, chacun donne son idée, on essaye de voir quelle est la meilleure idée, la moins mauvaise, tout ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que nous allons affronter une période qui faudra évidemment toujours se dire et qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le virus, qu'est-ce qui se serait passé dans ce match-là, est-ce que lui au troisième match en une semaine il se serait blessé si ça avait été des matchs tous les... ça va pas s'arrêter Gilbert, on aura, t'inquiète pas que nous à la radio il y aura toujours quelque chose à dire, hein.
Ça, le foot pour ça est assez fabuleux, Roland, faut le dire, oui. Pour que même quand il n'y a pas de match il y a toujours des trucs à dire tous les jours. C'est quand même un truc génial. D'ailleurs Ludovic est là, il est supporter Lyon. Ludovic au 32-16, bonsoir.
Oui, bonsoir les gars.
Bonsoir. Salut, bonsoir. Ah, toi, tu voulais réagir aux déclarations de Rudy Garcia. Donc aujourd'hui, dans l'équipe ce matin, une longue interview. Alors, il explique qu'en fait, les coachs de Ligue 1 ont créé à l'instigation de l'UNECATEF un groupe WhatsApp entre eux. Donc voilà, ça discute un peu de tous les sujets. Alors au départ, il s'est créé pour faire un don collectif qu'ils ont fait. Donc ensuite, ils ont parlé de tout le reste. Alors en gros, je donne les grandes lignes. Hein. Après, tu nous diras ce que t'en penses, Ludovic, puisque tu voulais réagir à ça. Il dit, on ne veut pas avoir à jouer uniquement tous les trois jours. On veut au moins deux semaines de trêve. Donc ils veulent avoir leur mot à dire, les coachs, sur le calendrier. Voilà, donc il ne veut pas enchaîner la fin du championnat actuel et le suivant. Voilà. Et il se pose des questions sur le mode de préparation. S'entraîner par petits groupes, ok, mais combien de temps ça va durer? Comment on fait? Bref, voilà. Il amène l'avis des coachs de Ligue 1 sur la table. Il se fait un peu le porte-parole des autres aussi, en quelque sorte, Ludovic. Alors, sur quelle partie tu voulais réagir?
Ben, moi je trouve plutôt positif que ces derniers jours on entend parler les joueurs et les entraîneurs sur le fait qu'il y ait globalement un consensus à ce niveau-là, parce que depuis le début de la crise on entendait beaucoup les présidents où ça partait peu à volo, chacun
c'est vrai que les coachs n'ont plus parler d'une seule voix que les présidents, ça on est bien d'accord.
Disons que on va pas se mentir, et vous en avez parlé depuis un paquet de temps et à juste titre, les présidents ils voient le côté de leur intérêt, le côté financier, tous les enjeux qui sont autour et qui sont importants, hein, faut pas les renier aujourd'hui. Il y a on parle beaucoup du football, mais il y a tout un tas de sports avec lesquels je travaille également, qui vont pas reprendre et autres, et qui tirent la langue, et des joueurs qui gagnent pas ce que les joueurs de foot gagnent et qui tirent la langue aussi. Ça, c'est important de le dire, parce que depuis pas mal de temps on tire à boulet rouge sur le foot et sur les joueurs de foot, et c'est toute une économie sportive qui est actuellement touchée. On voit depuis deux jours les joueurs et les entraîneurs, par la voix de Rudy Garcia, qui pose d'autres problèmes. Donc, je trouve ça positif, c'est bien. Et vous en parliez également, je crois, avant-hier, sur le fait que je suis convaincu que si la reprise se fait, ce ne sera pas sous n'importe quelle condition, et n'importe comment, et les choses seront faites avec sécurité. Enfin, j'ose l'espérer, et j'en suis convaincu. Après dans l'interview, ce qui me gêne, et là c'est le côté supporter lyonnais qui ressort, c'est que Rudy Garcia mette en avant le côté de jouer tous les trois jours qui va poser un problème, etc.
Tu veux dire, tu es en train de nous dire qu'il est déjà en train de chercher des excuses si jamais ça marche pas, c'est ça?
En fait, ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, moi, depuis le confinement, je joue à FIFA tous les jours et je joue avec l'OL et on a un des effectifs les plus pléthoriques de Ligue 1 qui permettent de faire des rotations, etc. Et je pense que s'il y a une personne qui doit pas tenir ce genre de propos, c'est quand même lui.
C'est vrai.
Voilà, bah, ça c'est le petit côté anecdotique, parce que après maintenant, moi je vais vous le dire franchement, financièrement, économiquement, pour le sport, pour le football, il sera important que la reprise se fasse d'une manière ou d'une autre. Mais moi, côté supporter, De toute manière, cette saison, j'ai fait un trait dessus, et ça fait un bail que j'ai fait un trait dessus, et quoi qu'il se passe à la fin de la saison, je sais que l'année prochaine, on repartira avec...
Bah, c'est sûr, quand t'es supporter lyonnais, on fait un trait sur la saison, on est bien d'accord.
Voilà. Oui, et puis bon, quand t'es supporter...
Tu serais marseillais, tu serais un peu plus fébrile, peut-être.
Quand t'es supporter tout court...
Attends, reste avec tout, Ludo, laisse Roland...
Non, je te dis, quand t'es supporter tout court, tu sais très bien aussi que ces 10 matchs, s'ils se font, ça sera à huis clos. Donc c'est sûr que cette saison, elle ne termine pas de façon extraordinaire.
Exactement. Oui, Ludovic, vas-y, tu peux conclure.
Mais moi, pour mon sens, voilà, aujourd'hui, vous voyez, quand je parlais du football, aujourd'hui, dans la presse et dans les médias, qu'est-ce qu'on met en avant aussi, c'est les décisions de Sedan qui est contre l'arrêt des championnats amateurs, parce que Sedan s'est fait griller par Bastia. Mmh. C'est la SSE qui va faire un recours parce que son équipe de D2 féminine s'est fait griller
C'est forcément ceux qui se sont fait griller qu'il faut les recours, c'est pas ceux qui montent.
Mais moi demain, que le Paris Saint-Germain soit champion, ça me choquera pas. Que l'Olympique de Marseille soit en Ligue des Champions, mais bon, attends, j'aime pas l'OM, ça me choquera pas. Que Toulouse soit relégué en Ligue 2, ça me choquera pas. Mais qu'après, les 10 matchs qui restent permettent de déterminer la deuxième, la troisième, la quatrième place et les places de barragistes et de relégables. C'est important.
Ouais, mais par exemple, je sais pas moi, que Nîmes soit barragiste, ça peut choquer les Amiénois, par exemple, tu vois. Donc après, chacun va toujours midi à sa porte.
Mais c'est pour ça que moi, je pense que pour l'équité sportive, il est important que ça reprenne. Après, il n'y aura pas qu'il en soit pour l'équité sportive.
Pareil, ça peut choquer les Lillois que Rennes soit en Ligue des Champions. Il n'y a qu'un point de différence.
Non, mais attends, il y a un truc aussi qui se passera. Je veux pas faire le voyant, mais il y a des équipes que le huis clos est plus négatif que d'autres. Il y a des équipes que leur public, c'est vraiment le 12e homme.
Quand tu vois les Rennais, Roland, les Rennais qui terminent tout le temps en boulet de canon, qui marquent à la dernière seconde.
Là, Roland, t'es en train
avec
de dire que Monaco va finir la fin de saison en boulet de canon.
Eux, ils sont à huis clos depuis le début de saison.
Mais pourquoi pas? Marseille, avec ce stade, ses supporters, et le calendrier qu'ils devaient avoir, c'est-à-dire un match tous les 8 jours, puisqu'ils ne sont plus dans aucune coupe, et à huis clos maintenant, avec en plus un match tous les 3 jours, mais c'est pas du tout le même sprint final, mais pas du tout. Hein.
Et je peux rajouter un point qu'on n'évoque pas trop, c'est que on parlait tout à l'heure des matchs tous les 3 jours pour l'OL notamment, mais on peut éventuellement projeter que l'Olympique Lyonnais récupère Jeffrey Nadehaïd et Memphis Depay pour la fin de la saison, L'Olympique de Marseille récupère Florian Thauvin pour la fin de la saison, et que tout un tas d'équipes récupère des joueurs qui étaient un petit peu sur le flanc pour la fin de saison.
Monaco, ils peuvent récupérer aussi, comme il s'appelle, qui a été suspendu 5 mois.
Ah oui,
faut peut-être pas exagérer non plus.
C'est pas Jemerson.
Jenson Martins. Donc non, mais quoi qu'il en soit, il y aura pas. Enfin, au bout du compte, il y aura pas d'équité sportive. Hein, ça soit clair. Mais je pense malgré tout que il faut terminer le championnat, et il y a plein d'enjeux. Alors c'est important d'aller au bout. Et après, la gestion des matchs tous les 3 jours, ça sera au coach de les faire. Et puis voilà. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs pour certains tout au long de l'année, et que certains font mal pendant une certaine période de l'année, quoi.
Merci Ludo.
Je vous en prie. Bonne soirée.
Salut,
les
Ludo.
Gars.
Salut
et
Ludo.
Bonne continuation à vous. C'est un vrai plaisir. Je suis désolé que Jérôme Rotet ne soit pas là, parce qu'il y avait une bonne anecdote dans l'équipe aujourd'hui d'ailleurs à son sujet. C'était plutôt rigolo.
Ah oui, Didier Digard. il sera là demain. T'inquiète, il va se faire cendrer. En fait, c'est Didier Digard qui raconte qu'un jour il y a eu un moment un peu tendu avec les supporters, parce que c'était les saisons où le PSG brillait pas de mille feux, tu vois. Et Jérôme se retrouve face aux supporters et les supporters râlent, et les gens lui disent: attendez, moi je suis là, j'aurais pu partir à Lyon et je suis resté, pourquoi vous m'en voulez? Et lui il dit: de toute façon, Lyon, t'aurais pas eu ta place, mais en fait t'es meilleur que toi.
Bon, après intrinsèquement c'est ce que j'allais dire en toute objectivité, hein, mais après intrinsèquement sur le reste de la carrière, on voit qui a plus duré que l'autre et qui a plus fait le job que l'autre, voilà.
Salut Ludovic, à bientôt.
Bonne soirée à vous, au plaisir.
Salut, à bientôt. Alors, autre info importante. Oui. Vous savez que chaque club négocie avec ses joueurs pour faire des efforts financiers. Et là, oui, les joueurs de la Roma, je pense que c'est eux qui sont allés le plus loin le cadeau fait à leur club. Puisque les joueurs de la Roma renoncent. Et je parle bien, je dis bien renonce, hein, je dis pas.
C'est pas qu'il repousse.
Voilà, je dis pas reporte comme ceux de la Juve. Ouais. Renonce à 4 mois de salaire. Mars, avril, mai, juin. Voilà, c'est ce qu'annonce la Roma aujourd'hui. L'entraîneur aussi, Fonseca. Voilà. Alors, si le championnat reprend, dans ce cas-là, ils se sont déjà mis d'accord pour qu'il y ait un système de bonus, de prime en fait, en fonction des objectifs sportifs atteints. Donc même si ça reprend, ils n'auront pas leur salaire, normaux. Quoi.
D'accord, et quel que soit le montant du salaire, et bah, même les plus petits salaires.
C'est le communiqué en tout cas de la Roma aujourd'hui. Ils ajoutent les joueurs et le staff ont également accepté de payer directement aux employés du club mis au chômage partiel la différence entre ce qu'ils reçoivent actuellement et leur salaire normal.
Ça c'est super.
Voilà. Alors on a vu pour le Real, pour le Barça, la Juve. Je pense que c'est pour l'instant les gens de la Roma qui sont allés le plus loin dans le.
C'est beau.
Dans le, voilà. Comme Pierre nous dit toujours, attention, méfiance. Moi,
là, apparemment, il y a eu un communiqué et tout des joueurs, donc on peut y croire quand même.
Voilà.
Et c'est top, c'est beau.
Voilà, 4 mois de salaire, donc ils ne seront pas payés, je le répète, mars, avril, mai et juin, les joueurs de la...
Enfin, c'est beau, entre guillemets, parce qu'espérons que tout le monde ne soit pas obligé de faire tout ça dans tous les clubs, parce que ça voudrait dire quand même qu'au niveau de la gestion des clubs, il y a quelques petits soucis quand même.
Ça, au fur et à mesure que ça va avancer, on s'apercevra qui a bien géré, qui a mal géré. Ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas besoin de prendre une loupe.
Quelques infos mercato, les gars, pour vous dire que Ousmane Dembélé intéresse du monde. Alors, on a parlé d'intérêt italien déjà il y a quelques jours. Et ben là, aujourd'hui, en Catalogne, on dit que Arsenal et United s'intéressent à lui. Alors bon, ils veulent le vendre. Hein. Donc, en même temps, c'est aussi logique qu'il fasse fuiter, qu'il y ait les offres ou les intérêts. Dembélé en Angleterre, pourquoi pas. En tout cas, ils n'en veulent plus à Barcelone.
Ben écoute, j'attends de voir pour y croire.
Alors d'ailleurs, autre petite info, mercato assez drôle. Aujourd'hui le journal AS qui raconte cette histoire. En fait, Messi et Cristiano ont failli jouer ensemble au Barça. Alors voilà l'histoire. En fait, le personnage central de cette histoire, c'est Ferguson. Ferguson, en 2008, n'a pas supporté que le Real vienne très fort tout faire pour recruter Ronaldo. Et il a dit non, c'est hors de question. Le Real, en plus, à l'époque, il disait des méthodes que je supporte pas, dit Ferguson. Jamais il n'ira au Real. J'en fais une affaire de principe et tout. Là, on est en 2008. Hein. C'est ce que dit Ferguson. Du coup, là, Ronaldo met son veto. Il reste. Un an plus tard, le Real repart à l'attaque. Et là, Ferguson, qui veut toujours pas qu'il ait le Real, qu'est-ce qu'il fait? Il propose Cristiano au Barça.
Tu vois? Ouais, d'accord.
Bon, négociations se font. Et au final, il va quand même au Real. As dit, à l'époque, on aurait pu avoir une attaque Henry, Zlatan Ibrahimovic, Messi, Ronaldo au Barça. Si jamais ça s'était fait.
Bah écoute, ça sincèrement, je ne l'ai jamais entendu.
Bah écoute, voilà, c'est ce que raconte As aujourd'hui. Dans quelques instants, on parle des directeurs sportifs, parce que, oui, vous l'avez suivi, le mercato des directeurs sportifs s'enflamme. Avant, il n'y en avait pas de mercato des directeurs sportifs. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On va en débattre tout de suite avec Pierre, Lionel et Roland dans l'After. À tout de suite au 32-16.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à midi, on est là avec Lionel Charbonnier, avec Pierre Ducrot, avec coach Courbis, bien sûr. Alors, les directeurs sportifs, on en parle. Et oui, Florian Maurice, donc, passe de Lyon à Rennes. Sébastien Larcier passe de Dijon à Angers. Pendant ce temps-là, Lyon cherche. Loïc Désiré, lui, qui justement était Désiré, reste à Strasbourg. Bref, il y a un mercato qui se fait, des directeurs sportifs. Alors, on va définir ensemble ce qu'on entend par directeur sportif, parce qu'il y a différents rôles, différentes situations selon le club, bien sûr. Enfin bon, est-ce que vous êtes étonné par ce petit mercato là de club à club? C'est pas vraiment une nouveauté, hein, parce que certaines années c'est déjà arrivé. Mais enfin, là, il y en a quand même plusieurs comme ça d'un coup. Alors, Piqueux a quitté Angers. Il y a eu des changements aussi à Monaco. Bref.
Ouais, mais ça c'est une coïncidence. Je pense que c'est un petit peu comme souvent ça se passe, cette fameuse loi des séries qu'on n'explique pas. Mais comme tu viens de présenter les choses, justement déjà, mettons-nous d'accord ce qu'est un directeur sportif par rapport à un recruteur. Directeur sportif, j'ai pas les compétences pour faire une leçon de français, mais je sais quand même lire. Directeur sportif, ça veut dire que tu diriges sportivement un club. Mais ça dépend quel club, ça dépend qui est le président de ce club. Si le président il est propriétaire du club ou s'il est salarié du club, c'est pas tout à fait pareil comme structure. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on donne ces précisions-là. Et après, par exemple, le cas Maurice, il va tout simplement à Rennes parce qu'il va être le Juninho de Rennes. Mais à Lyon, le Juninho, ben, c'était Juninho.
Voilà, donc il aura des prérogatives supérieures à Rennes que ce qu'il avait.
Oui, je me l'imagine comme ça.
Non, mais ça veut dire quand même que c'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est quand même un poste qui est devenu crucial dans le fonctionnement des clubs aujourd'hui, et quelle que soit la structure.
Mais qu'il l'est depuis un petit moment. Et moi honnêtement, je veux pas plomber le débat, mais je suis surpris qu'on essaye effectivement de dire que c'est nouveau. Si on prend tous les clubs de Ligue 1 aujourd'hui, à part 4 ou 5 qui étaient assez stables depuis plusieurs années, notamment Angers qui l'était depuis très longtemps, Strasbourg qui l'est depuis les montées successives, un club comme Dijon justement, où Seb Larcier va partir maintenant, mais qui était assez stable depuis des années. Tous les autres, on peut dire que ça change quasiment tous les deux ans, quoi, pour faire une moyenne. Le PSG, ça a changé régulièrement avant que Leonardo ne soit le dernier changement. Marseille, ça a changé avec McCourt. Rennes, ça a changé très souvent. Lille, ça a changé avec Campos quand
même.
Il est arrivé.
Ce qui est nouveau quand même, Pierre, c'est que ça devient un enjeu de tension entre clubs. Je veux dire, Aulas, il est contrarié que Maurice parte. J'imagine qu'à Strasbourg, Marc Keller, il n'est pas ravi qu'on vienne essayer de piquer le gars qui a réussi le recrutement depuis 3 ans.
Ce que tu voulais dire aussi, c'est que bientôt, il va y avoir transfert avec des sommes. Il y a bien eu transfert d'entraîneur. Il peut y avoir transfert d'entraîneur.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pareil que pour les postes d'entraîneur. C'est pareil que pour les postes de directeur de centre de formation où les meilleurs sont très prisés. Les éducateurs, enfin les entraîneurs de jeunes sont très prisés aussi. Et ça, on en parle beaucoup moins nous. Mais quand il y en a un bon, croyez-moi que ça s'arrache. Les recruteurs, on parle de directeurs sportifs, mais les directeurs de recrutement ou les scouts qui sont très bons, qui ont un très bon œil et qui savent voir très très tôt. Ça vaut aussi beaucoup d'argent, enfin beaucoup entre guillemets quand on compare avec le haut. Non, mais enfin voilà, c'est pas nouveau hein, finalement, et que les directeurs sportifs aujourd'hui s'arrachent, je vais pas dire ça parce que c'est pas vraiment le cas, mais se monnaie un petit peu, je trouve ça complètement normal. C'est eux qui amènent la plus-value.
C'est surtout pour ça, Pierrot, je pense, c'est parce que dans ce championnat où le trading se fait de plus en plus, c'est vraiment un rôle prépondérant maintenant dans la structure des différents staffs, et c'est pour ça qu'on peut-être on veut en parler. Là, on en parle pourquoi aussi, tu sais,
parce
qu'il y a eu la sortie avec l'OL. Sinon, ferait.
J'aimerais quand même qu'on détaille un truc, parce que là, on parle de directeur sportif. Mais enfin, la valeur qu'ils ont, ces gars-là, c'est surtout sur leur capacité à recruter.
Pas cher.
Et à faire des plus-values au club.
Voilà, à recruter pas cher et capable aussi de revendre derrière.
Moi,
vous voyez le rôle de directeur sportif uniquement ce rôle de commerçant d'achat et vente.
Leur cote auprès des clubs. Je te donne un exemple, Roland. L'exemple que je connais, l'exemple de Strasbourg. Ouais. Ok, regarde. Loïc Désiré, il fait venir. Franchement, moi, pour voir ce qu'il fait, c'est impressionnant parce qu'c'est quasiment un sans faute sur les trois dernières saisons. On va dire, il y a une recrue sur laquelle ça n'a pas marché, c'est Saadi, l'attaquant, là, qui était meilleur buteur de championnat belge. Bon, ça n'a pas marché. Mm-hmm. Mais je veux dire, entre Sissoko, Fofana, Cels, la liste est très très longue.
Djikou.
Prenons l'exemple de Fofana, qui a été revendu cette année 14 millions à Monaco. Mais 14 millions, ça représente quasiment la moitié du budget du club. C'est-à-dire que c'est lui qui a trouvé Fofana, qui te le ramène pour pas grand-chose. Pareil pour, comment il s'appelle, le joueur qui était à Orléans, qui est passé par Strasbourg, qui maintenant est à Monaco.
D'accord, excuse-moi Gilbert, tu nous expliques quoi?
De quoi tu parles? Je n'ai pas entendu.
Je dis, pareil pour l'ancien Strasbourgeois qui est venu d'Orléans pour partir à Strasbourg et qui est maintenant à Monaco, qui joue à Oulu. Voilà. Ça veut dire qu'avec un très bon directeur de recrutement, pour l'appeler comme ça, tu fais des plus-values financières que ton service commercial ne fait pas avec les sponsors.
Ah, bah non, mais c'est impossible. C'est impossible de demander au service marketing
mais oui,
de
faire
les mêmes plus-values.
Tu as des périodes comme tu es inspiré. Après, le gars, est-ce qu'il va être inspiré sur les 10 années à venir, on n'en sait rien. Mais pour le moment, tu as raison. Ce qu'il fait depuis 3 ans, c'est tout simplement extraordinaire. Et c'est ce qui fait la différence.
D'où la valeur du gars.
Ce qui fait la différence dans notre Ligue 1, avec le même budget, celui qui est meilleur que l'autre dans les choix de départ, dans la gestion des contrats, de ne pas laisser aller un joueur à un an de la fin de son contrat, toutes ces conneries-là qui se font ou qui se font pas, et c'est sûr que ça fait la différence.
C'est la différence notamment entre un directeur sportif et un responsable de cellule de recrutement. Tu parles de Loïc Désiré à Strasbourg qui travaille très très bien avec sa cellule.
Qui s'occupe uniquement du recrutement, il n'est pas directeur
qui s'occupe
sportif.
Uniquement du recrutement, exactement. Tu pourrais citer, il y est plus aujourd'hui, mais Olivier Piqueux à Angers qui a fait ça pendant 14 ans. Alors nous on l'a plus vu quand Angers est arrivé en Ligue 1, mais ça a été le même système depuis le départ et qui a permis à Angers de monter parce que sportivement ça a apporté quelque chose à chaque fois et financièrement ça a apporté quelque chose. Ce sont des et pourtant Olivier Piqueux lui est directeur sportif donc il a réussi à manager sa cellule de recrutement pour avoir les éléments qu'il voulait mais en plus à s'occuper de la partie commerciale
donc ça marche aussi dans l'autre sens Pierrot, c'est-à-dire que les deux par exemple là vous venez de citer deux clubs que ce soit Strasbourg ou Angers où ça marche franchement excellemment bien ce sont aussi deux clubs où les coachs persistent, c'est-à-dire que dans la complémentarité tu as la partie d'avoir l'œil pour recruter le joueur et tout ça avec sa cellule de recrutement, mais il faut aussi que ce directeur sportif comprenne la méthodologie et là aussi où veut en venir son entraîneur de ce qu'il a besoin, que ce soit vraiment ce sont deux personnes qui doivent être très complémentaires. Tu peux pas recruter n'importe si demain tu changes d'entraîneur
sur la durée, c'est dur sinon.
C'est très compliqué.
Gilbert, pour en revenir, précise-nous Strasbourg. Ouais. Donc l'organigramme Strasbourg, président jusqu'au...
Marc Keller.
En fait, t'as pas de vrai directeur sportif.
Il n'y en a pas de faux au début, parce que le président peut avoir les qualités.
Les tâches sont réparties, c'est-à-dire que tu as un responsable du recrutement qui est désiré. Donc il fait comme je l'ai dit là, il y a d'autres parce que là on me signale Simacan par exemple que j'ai pas donné, voilà, enfin
il y en a d'autres bien sûr.
Et puis tu as un manager qui est aujourd'hui Kader Mangan, qui est un ancien joueur et qui s'occupe aujourd'hui des liens entre l'équipe pro, le président, les dirigeants, qui s'occupe du sportif plus au quotidien, mais qui va pas gérer le recrutement. Voilà. Donc, comme tu le disais, coach, au début, chaque club a un peu sa structure. Mais moi, j'ai l'impression que mon discours, en fait, au départ, c'était sûr, c'est que moi, j'ai l'impression que ce qui fait la valeur des gars aujourd'hui, c'est pas tant le fait de savoir gérer un groupe sportif, c'est le fait de savoir bien recruter. Parce que c'est ça qui ramène de la caillasse.
Mais un garçon comme Marc Keller, que j'ai le plaisir de bien connaître, il peut avoir les qualités maintenant et les compétences d'un président et d'un directeur sportif. Alors ça n'empêche pas qu'il s'appuie sur deux trois personnes, mais ça c'est un petit peu un président à part.
Oui, c'est une structure peut-être à part. Enfin, pour générer.
Mais de pas son cursus, de pas son cursus de joueur.
Donc il y a une sensibilité football, voilà, exactement. Voilà.
Absolument.
Maintenant, pour sortir du cadre de Strasbourg, moi je pense que le profil que recherche Lyon, et donc il voulait Loïc Désiré qui est spécialisé dans le recrutement, c'est un profil vraiment comme ça. C'est pas, ils veulent pas Juninho bis, donc c'est ça qui fait une nouvelle fois, c'est l'oseille quoi, c'est le nerf de la guerre.
Ah ben oui, écoute, dans tous les cas, c'est sûr que si par exemple un garçon comme Flo Maurice. Il fait, si tu veux.
Et pour le remplacer, Roland, c'est qui c'est quoi le poste pour remplacer Flo Maurice à l'heure actuelle avec Juninho devant?
Mais justement, si par exemple.
Ça n'a rien à voir avec directeur sportif.
Voilà,
c'est juste recrutement.
Le poste de Florent Maurice, on l'annonce directeur sportif à Rennes, c'est pour ça que je te disais en début de débat. Pour moi, il n'était pas directeur sportif à Lyon. À Lyon, exactement. Il était responsable du recrutement. Évidemment qu'il ne décidait pas tout seul. Il en parlait aux personnes qui dirigent ce club. Mais là, il va à Rennes, d'après ce qu'on peut comprendre, pour changer ses fonctions.
Donc aujourd'hui, surtout, dans un club, c'est plus important d'avoir un bon recruteur qu'un bon directeur sportif.
Les deux, pas forcément.
Non, parce que il faut vraiment quelqu'un qui sache s'adapter, qui connaisse quand même le football pratiqué, l'ADN du football que veut transmettre le coach à son groupe. Et tu peux pas recruter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment.
Le mieux, Gilbert, c'est d'en avoir. Pardon, vas-y, Mario, pardon.
Non, mais c'est ça, Pierrot.
C'est d'avoir un bon dans chaque domaine, tu vas me dire ça.
Ouais, ou d'en avoir déjà un bon, ça c'est le mieux déjà.
Il faut avoir l'œil, il te faut d'une part avoir l'œil avec une bonne cellule, un bon carnet, mais aussi être capable d'analyser ce dont a besoin ton groupe et ton entraîneur.
Puis, on s'aperçoit une des raisons de la réussite, c'est aussi de savoir bien s'entourer. Et du côté de Strasbourg, j'ai l'impression quand même que c'est complémentaire et que on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on ne sait pas faire. Et un garçon comme Marc Keller, qui est quand même jeune pour un président, c'est pour moi un président directeur sportif.
Mais moi, je vais te dire, dans le cas de Strasbourg,
ils ont mis les moyens aussi. Ils sont plus de 5, je crois que c'est 6 ou 7 maintenant à temps plein. Ouais. C'était pas le cas il y a encore pas très très longtemps. Hein, donc, ils ont aussi mis les moyens. Et moi, ce que j'allais dire, c'est que...
Mais je vais même aller plus loin, moi, je veux dire, Pierre. Dans le cas de Strasbourg, quel est le plus important aujourd'hui? Est-ce que c'est le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui ou le recruteur? Pour la structure et la pérennité à moyen terme du club,
à moyen terme, c'est bien sûr le recruteur, ouais. Parce que c'est enfin le recruteur, ouais, c'est,
donc, c'est, des
c'est un ensemble aussi.
Cruciaux quand même. Alors
oui, bien sûr.
C'est peut-être moins le cas à Paris avec les moyens de Paris que dans des clubs moyens.
Gilbert, c'est la même chose dans l'équipe, ce cas-là. Tu vois, qu'est-ce qui est meilleur? Avoir un bon numéro 6 qui va t'annihiler toutes les défenses ou toutes les attaques adverses, ou alors avoir un numéro 9 qui te claque les buts?
Bah, tu vois, ils vont revenir sur le débat d'hier.
Ouais, je prends le 9.
C'est un ensemble.
Non, mais si tu prends plus de buts que ton 9,
il faut de la complémentarité. Ça correspond au principe de jeu du coach et à ce qu'il veut. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que surtout, il n'y a pas un organigramme ou une structure type pour que ça marche. On peut prendre notre Ligue 1, il y a trois structures différentes qui peuvent exister, c'est-à-dire un président et une cellule de recrutement comme à Strasbourg, et ça marche bien parce que sportivement ils s'en sortent et parce qu'en plus financièrement ils font des belles plus-values qui permettent au club de construire de sérieuses bases là pour rester en Ligue 1. Tu peux avoir une structure avec un président, un directeur sportif, une cellule de recrutement comme beaucoup de clubs, comme on parlait d'Angers, comme Angers l'avait, et ça marche. Et puis tu peux même avoir parfois comme Lyon une cellule de recrutement qui marchait sans directeur sportif, mais avec un espèce de conseiller du président, c'était Gérard Houillet, pour prendre les décisions avec Jean-Michel Aulas. Ça, c'est encore une autre structure. Et ça marchait aussi quand même relativement bien, même si on aurait pu attendre encore mieux de Lyon ces derniers temps sur le plan sportif. Donc, finalement, c'est la valeur des hommes qui te fait marcher. Et c'est un peu comme sur le terrain, finalement. Voilà, quand tu as des bons joueurs, en règle générale, ça se passe quand même pas mal. Quoi.
Dans quelques instants, on continue le débat. Parce qu'il y a pas mal de réactions que je vais vous lire là sur le hashtag RMC Live. Et puis encore d'autres infos avant 23h avant de parler de l'équipe de France, votre 11 de rêve de l'équipe de France. L'équipe s'est amusée à le faire. Bon, évidemment, on n'est pas tous d'accord avec le 11 qui est sorti. C'est le jeu, hein. Donc on va le faire nous aussi, du coup. Ce sera après 23h. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Coach Courbis, avec Pierre Ducros ce soir, avec Lionel Charbonnier également avec nous. Et alors, j'ai quelques messages. J'ai des Bordelais qui me disent nous on attend un bon recruteur. Évidemment, j'en ai qui me parlent de Lopez, qui me dit il est bon Lopez, il joue le gars qui a pas besoin de vendre pour vendre cher. C'est malin, nous dit Nico. Non mais tout de même.
Ça me rappelle un certain club, tu vois.
Ah. Un club que tu connais bien?
Ah oui, c'était ça. Mais on n'avait jamais besoin d'argent. Enfin, un petit peu comme ça, mais je peux te dire qu'à chaque fois, non, c'est pas à vendre. Et puis en fin de compte, ça partait tous les ans, les meilleurs joueurs partaient. Et c'était difficile derrière pour refaire les Coupes d'Europe.
C'était encore un autre modèle qui n'existe quasiment plus.
Ah oui. Là, il n'y avait pas de directeur sportif, il n'y avait pas. Disons que chaque homme endossait tous les rôles. Tu vois, ils étaient trois, mais les trois, ils se distribuaient. Et en fin de compte, ils multipliaient les rôles à trois. Puis ils se faisaient une petite réunion, et voilà, puis ça se passait bien.
Mais surtout, aujourd'hui, tu n'as plus un club où tu as 5 ou 6 gars tous les ans qui intègrent l'équipe première. Formé au club.
Formé au club.
Il n'y avait pas autant que ça quand même.
Nous aussi, c'est
tous les ans.
Non, pas tout. Non, tous les ans, t'en avais deux ou trois.
Au moins tous les ans.
Deux ou trois.
Deux ou trois. Tous les ans, et après, ouais, ça faisait.
Mais trois pour jouer.
Trois pour jouer. Et ça faisait dans l'équipe à peu près la moyenne, c'était 8 pour 11 quoi, qui jouaient, issus du centre de formation. Ouais, c'était ça.
Mais vous êtes les derniers.
Je pense que il y a peut-être eu Rennes aussi pendant un moment après nous. Rennes a fait Lyon aussi. Lyon, pendant un moment, ils étaient très bien. Hein. Il y avait un gros centre de formation. Ils s'en sont bien sortis. Maintenant, on va peut-être y revenir hein, à ça. Alors, peut-être pas autant.
Ouais, mais on n'est plus dans la même époque. J'insiste comme un vieux sur cet arrêt Bosman. L'arrêt Bosman a tout changé.
Ça fait du mal.
Il y avait ces 7-8.
Sauf si on change des règles.
Ces 7-8 français.
Non, mais ça ne changera pas. C'est ça le problème. Tu ne pourras plus changer parce que tu es.
Oui, parce que maintenant, on veut vendre.
Ça concerne. Non, et puis même, ça concerne pas que le football, quoi. C'est le droit du travail, messieurs. Et
ah, tu viens par rapport à l'arrêt Bosman? Ah, bah oui,
ça. Ouais, on a le droit de circuler. Et aujourd'hui, les meilleurs jeunes qui, à ton époque, enfin, à mon époque aussi, j'étais pas si loin de ça, mon yo, pouvaient rester pour sortir dans leur club formateur comme à Auxerre. Aujourd'hui, les meilleurs de chaque centre de formation français quasiment partent quand ils sont décidés comme meilleurs à 15, 16, 17 ans.
Ouais, mais j'attends avec impatience, et bon, évidemment, on va pas en parler ce soir, ce qui va se passer parce qu'il est arrivé ce virus, ce qui va se passer du côté des Anglais quand même. Est-ce que le joueur moyen qui allait en Angleterre, parce que évidemment tu gagnais beaucoup plus d'argent, est-ce que ce joueur moyen pourra toujours aller en Angleterre, et est-ce que les Anglais vont pas être obligés d'avoir plus d'Anglais dans leur équipe avec leur comment on appelle,
ça fait partie des inconnus du mercato,
le Brexit, ouais. Ben oui. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais tu vois, ça sera peut-être pas le même Eldorado. Hein.
Là où tu as raison, coach, c'est sur le Brexit va avoir un réel impact sur le recrutement des jeunes.
Oui,
effectivement.
Exactement.
Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Enfin, ce sera même impossible logiquement pour les clubs anglais. Et là, effectivement, ici, il y a un réel impact pour eux. Et je sais pas comment ils vont se débrouiller là-dessus par rapport aux Allemands, aux Espagnols.
Tu veux dire d'aller prendre, par exemple, dans un centre de formation français le meilleur jeune pour faire de la post-formation, quoi, en gros?
Même un peu avant, parce que tu sais Gilbert qu'il les amène un petit peu avant en Angleterre. Même quand c'était à moitié autorisé, et là tu pourras vraiment plus le faire avec le Brexit, hein, c'est impossible.
Bon, dites-moi,
on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a le virus qui évidemment est au-dessus de tout, mais ça va pas être la même chose, hein.
Dites-moi, je reviens à mes directeurs sportifs là, les recruteurs. Vassiliev à Monaco ou encore Piqueux à Angers, touchés par contrat, des pourcentages sur les reventes de joueurs. Ce qui peut être quand même, dans le cas de Vassiliev par exemple, on s'était amusé à calculer, ça représentait plusieurs millions d'euros pour lui. Parce que, évidemment, avec Monaco, avec tous les mouvements qu'il y a eu, alors vous allez dire à Angers, il y en a un peu moins. Mais enfin,
et est-ce que quand il se plante, on lui enlevait du...
Ah ouais, mais t'as raison. C'est comme un commercial, après tout, tu fais pas l'objectif. Ou,
c'est comme voilà, non, mais... si t'as pas réalisé.
Bon, ça, a priori, c'était pas dans le contrat. Alors, ouais, on n'a pas cette info.
Dans ce sens-là.
Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, à votre connaissance, ça fait partie de tous les contrats de directeur sportif ou de recruteur, ça?
Non, pas tous.
Parce que c'est exactement comme les joueurs. Hein, ça dépend de la position dans laquelle tu arrives. Voilà, il y a des directeurs sportifs ou des responsables de cellules de recrutement qui arrivent pas dans une position non plus extrêmement forte, mais qui arrivent pour progresser en même temps que le club. On parlait de Loïc Désiré. C'est un garçon qui a évolué en même temps que son club. Il aurait pas pu arriver avec des prétentions comme ça au départ au Racing. Donc ça n'existe pas pour tout le monde, mais moi ça me choque pas qu'un directeur sportif ou qu'un responsable du recrutement et je séparerais bien ça d'un coach, voilà, parce que le coach il y a une réelle incidence pour moi quand tu dois faire ta composition.
C'est là que ça devient dérangeant, Pierrot.
Pour un coach,
toi,
oui,
ça te dérange
moi,
pas
c'est
qu'il soit intéressé
différent. Mais bien sûr que non, s'il fait gagner énormément d'argent,
ça peut prendre des problèmes. Ça peut poser des problèmes éthiques.
Ça peut être dangereux. Ça peut être
par
dangereux.
Par rapport à quoi? Si c'est fait. Si, alors, moi, pour moi, l'objectif d'un directeur sportif.
Je prends l'exemple de Monaco. Monaco qui fait venir 40 joueurs et qui en fait partir 35. Et tu sais que le directeur sportif, il touche 3% sur chaque départ. Tu dis, attends.
Il touche un pourcentage sur une éventuelle plus-value qui est réalisée. Déjà, toutes les plus-values sont pas réalisées. Et arrêtons de croire qu'à Monaco il y a 40 joueurs parce que le mec fait éventuellement un pourcentage sur les plus-values. C'est parce qu'il y a une réalité. Ah Gilbert. La grosse plus-value que tu fais sur un ou deux joueurs à Monaco, parce que ça a flambé, certes, mais je pense que si tu calcules proportionnellement les arrivées et les plus-values qui ont été faites dans d'autres clubs beaucoup plus petits, comme Angers, parce puisqu'on parlait d'Angers, ou d'autres, on parlait de Strasbourg également, je pense que c'est beaucoup beaucoup plus intéressant.
Ce qu'on veut nous dans le foot, c'est des joueurs qui s'identifient à leur équipe, qui restent, des mecs, tu vois, qui plaisent aux supporters.
Malheureusement, il faut avoir des joueurs comme ça.
Achète-moi celui-là, pam pam, vas-y, envoie.
Mais non, parce que sportivement, attention, il faut aussi que ça tienne la route sportivement. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Monaco, comme par hasard. C'est que sportivement, ça a été fait tellement à outrance que ça s'est cassé la figure et qu'ils ont eu très chaud.
Roland et Lionel, ça vous dérange, vous, ces pourcentages à la revente?
Et moi, je dis que ça peut être dangereux. Moi qui suis superstitieux, là, tu nous cites deux exemples de deux personnes qui se sont fait virer.
C'est vrai. Mais bon, qu'on a su qu'ils avaient ces clauses.
Il est resté très longtemps dans son club et son club a grandi avec lui. Enfin, bon,
absolument.
Voilà, ça a fait preuve de.
Et c'est vrai qu'on était au courant. On était au courant depuis des années que Piqueux avait ça dans son contrat. Sans être choqué. Vassiliev, alors c'est vrai que les sommes n'étaient pas les mêmes. Et du côté de Lille, donc on n'en parle pas. Il y a que ce soit Campos ou quoi.
Et si c'est pas le
joueur, des fois, c'est l'agent.
Exactement.
L'agent important comme peut l'être Mendes, il n'y a pas besoin qu'il y ait un responsable au club qui a un pourcentage. Il y a peut-être un accord avec le président et l'agent.
Et Pierrot, je vais rejoindre le coach. Est-ce que, par exemple, le directeur sportif ne peut pas aussi, en prenant tel ou tel joueur, dire à l'agent, écoute, moi je te prends ton joueur, mais sur la revente, tu me redonnes tant de pourcents tu le revends après?
La grosse différence.
Est-ce que ça
je l'ai vécu. Alors je peux te dire.
Je vais te répondre sans langue de bois. Je pense que effectivement, enfin je pense pas. Je sais que ça existe, mais c'est illégal.
Ah bah oui.
Mais c'est là la grosse différence entre un directeur sportif.
C'est pour ça que ça peut être dangereux.
Peu importe qui arrive dans un club, qui en négociant son contrat quand il arrive dans un club dit au président, voilà, moi j'ai des compétences. Mes compétences, c'est d'aller dénicher avec ma cellule de recrutement des talents. Des jeunes talents qui vont vous faire gagner de l'argent, qui vont avec cet argent vous permettre sportivement aussi, parce que ce sera des joueurs qui tiendront la route sportivement et qui correspondront à ce que votre coach veut, etc., etc. Je veux avoir ma part du gâteau là-dessus parce que c'est mon boulot et mes compétences et que je les monnaie comme ça, et c'est avec un contrat tout à fait légal, un contrat de travail avec des clauses dedans. Ça me dérange pas du tout. À un moment donné, si c'est un agent qui rémunère un directeur sportif, là tu rentres dans quelque chose qui est complètement illégal.
Voilà.
Et pour moi, c'est la grosse différence. T'as pas le droit de le faire. Alors il y en a qui le font. Il existe tout dans le football. Hein.
Ça se fait. Ça,
bien sûr que ça se fait. Mais là t'es dans quelque chose d'illégal. C'est pas pareil. Et ceux qui le font prennent leur risque. Voilà.
Je me remets sur le plan éthique. Moi, qu'un agent qui a réussi à placer son joueur dans un club supérieur avec des meilleures conditions et tout touche une commission, ça me choque pas. Mais par contre, qu'un directeur sportif qui est intégré au club touche une commission, ça me dérange.
Mais si
il touche une commission,
mais s'il est d'accord avec le président,
sur une revente.
Mais bien sûr, c'est une commission sur la plus-value, tu vois, sur l'argent que tu vas faire gagner.
Parce que c'est une incitation à la vente.
Alors le président qui arrive, l'actionnaire qui arrive, qui met de l'argent et qui veut en récupérer parce qu'il fait de l'argent avec le club, c'est quoi alors?
Ah mais attends, là tu parles de vente d'entreprise. Moi je te parle du fonctionnement au quotidien.
Comment font les dirigeants dans les boîtes tout à fait normales? Mais dans les boîtes tout à fait, normales d'ailleurs. Est-ce que je vois pas pourquoi les entreprises et les clubs de foot sont aussi des entreprises normales.
Ça te choque qu'un
dirigeant d'entreprise qui fasse son chiffre, qui fasse un bon résultat avec des bonnes équipes?
Non, c'est pas comparable. Tu peux pas comparer le mec qui vend des pâtes à un club de foot. Mais parce qu'il y a une dimension humaine, il y a une dimension historique, il y a 1000 paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est pas uniquement
le joueur de foot,
c'est pas un paquet de spaghettis.
C'est quoi ce
raccourci que tu fais, Gilbert? On n'a jamais dit ça. Et alors non seulement le mec vend mieux les pâtes que tous les vendeurs de pâtes de la terre, tant mieux qu'il ait ces compétences là et qu'il soit rémunéré pour ça, mais en plus c'est pas du tout ce qu'on te dit. Et une nouvelle fois, je vais arriver au plan sportif. Si à un moment donné, le directeur sportif ou celui qui a envie de faire ça ou qui a dealé ça avec son président s'amuse à ne faire uniquement que de la plus-value, quitte à léser sportivement son équipe, il prend ses risques parce qu'à un moment donné, ça va se casser la figure, ça ne marchera plus. Est-ce que vous pouvez me dire, puisqu'on parlait de ces deux clubs, Strasbourg et Angers, quels sont les mauvais coups qui ont été faits ou qui vous paraissent bizarres et qui auraient été influencés par
des gens? Attends, mais on est en train de
qui monnaient leurs compétences.
Attends, où j'ai pas bien compris, où on est en train de négliger quand même un truc important. Si c'est marqué dans le contrat du directeur sportif, mais ça restera toujours le président qui décide s'il y a une vente ou s'il y a pas, ou s'il y a pas de vente.
Moi je suis directeur sportif, je touche 5% sur la revente. Tu crois pas que je vais pas avoir mon président en disant, au fait président, j'ai eu un coup de fil de un tel club pour tel joueur à ce prix-là. Et ça va, tu peux susciter aussi la vente, hein. Tu vois ce que je veux dire?
Mais c'est le président qui décidera, c'est pas le directeur sportif.
Bah oui. Et puis tu penses que les présidents de club, Gilbert, sont pas orientés vers ça aussi aujourd'hui? Non, mon Dieu, tu découvres pas le foot aujourd'hui, Gilbert.
Et
pas le foot français, hein, on met tout dedans.
Je veux garder un caractère éthique aux fonctionnaires des clubs de foot et je ne veux pas transformer les joueurs en marchandises. Voilà. Voilà mon message.
Je suis entièrement d'accord j'aimerais pas que ça devienne ça et
après,
ça n'est pas ça.
Soit plus comme ça, je le déplore, je défendrai l'idée opposée.
Mais qui est-ce qui empêche, regarde, mais enfin, j'insiste sur ces deux exemples parce que c'est les deux qu'on a pris dès le début et ils sont plutôt bien. Qu'est-ce qui t'empêche de penser que des joueurs qui sont à Angers depuis 4, 5, 6 ans font partie de joueurs qui ne sont pas respectés? Et qu'est-ce qui t'empêche de penser que ont passé 3 ans à Angers, qui sont partis et qui ont évolué dans leur carrière,
Angers, Strasbourg, c'est très bien, ça marche, parfait, très bien, bravo.
Et si le joueur il veut pas partir à l'intersaison où le directeur sportif et le président de son club aurait bien voulu le transférer, ça peut arriver ça aussi.
Et puis t'as le contraire aussi. T'as le contraire parce que là, le contraire, c'est que le joueur, lui, maintenant, parce que j'en vois de moins en moins des joueurs qui s'identifient vraiment à leur club, ils embrassent tous les cuissons et tout ça, mais dès qu'ils ont la moindre opportunité, même au bout de 6 mois ou 1 an, ils veulent déjà se barrer. T'as ça aussi.
Barthez ou Charbonnier, votre 11 de rêve de l'équipe de
Charbonnier,
France.
Mais c'est qui Barthez? Arrête un peu.
On en débat dans quelques instants ensemble au 32-16, bien sûr. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.